Bon, bienvenue à toutes et à tous à cette cyberscopie de livre Nos enfants sous haute surveillance, évaluation, dépistage, médicaments, écrit par Sylviane Gion-Pineau et Catherine Vidal. Donc avec deux discutants, Bernard Goltz et moi-même. Alors, d'abord des remerciements d'usage, mais affectés et avec cœur, l'IPSI, Bernard Debaille. C'est vrai que pour nous, les fétichistes des bouquins, se retrouver ici, dans ce temple, avec tous ces trésors, c'est extrêmement motivant, mobilisateur et agréable. Ici, on sait que les bouquins sont bien traités. Donc, c'est un endroit parfait pour les cyberscopies. Remercier Mathilde Nobécourt et Albin Michel. Alors, merci aussi à Absinem, qui est, depuis le départ, vraiment un allié dans ces cyberscopies, avec Carnepsy, qui donc a eu l'initiative de mettre sur internet comme ça ces causeries autour d'un bouquin il y a maintenant, Alain, de très très longues années.
2000.
Et merci à notre cyclope préféré, merci à Alain Casanova, qui est toujours une présence chaleureuse et intelligente pour filmer tout cela derrière sa caméra. Alors, Sylviane, tu es psychanalyste. J'aurais envie de dire d'abord et surtout structurellement, consubstantiellement. Et tu es psychologue clinicienne, tu as été une fondatrice de l'association Anapsy, et tu as été bien sûr une des grandes initiatrices de la pétition, puis de l'association Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans, qui date de 2006.
Le collectif.
Pas de zéro de conduite. Créé en janvier 2006. Et en tout premier lieu, à l'initiative des médecins de protection maternelle et infantile, Pierre Suesser, ici présent, et Christine Bellas-Cabal.
François Bourdillon.
C'est ça.
François Bourdillon, Evelyne Lenoble, et quelques autres.
Et Pierre est là. Catherine Vidal, elle est neurobiologiste, directrice de recherche à l'Institut Pasteur. Et vous avez donc concocté toutes les deux, dans l'interdisciplinarité, ce livre. Alors, pour être en accord avec le format habituel de ces cyberscopies, je vous propose de prendre la parole chacune à votre façon pour nous présenter le livre, la substantifique moelle de cet ouvrage. Et puis ensuite, Bernard et moi, on se fera un plaisir de dialoguer.
Bien. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il a fallu nous familiariser avec l'idée qu'il faille écrire ce livre. Car c'est un peu triste, finalement, de se dire qu'en France, aujourd'hui, on soit obligé d'écrire un livre pour dire que l'avenir, le devenir d'un enfant ne se décrète pas, d'abord sur ordonnance, et qu'on ne peut pas prédire le devenir d'un enfant à partir d'une photographie de son comportement dès son plus jeune âge. Il y a donc aujourd'hui en France une remontée d'une pensée déterministe qui prend la forme d'une part d'un déterminisme sociologique avec des méthodes et des façons de concevoir notamment la prévention en termes de population cible, de familles vulnérables, d'enfants en danger. Il y a aussi une montée d'une pensée déterministe biologique et génétique dont va parler Catherine. Et puis, nous, les psychologues, les psychanalystes, les pédopsychiatres, nous sommes face aussi à une montée d'une pensée déterministe qui pourrait se résumer à « tout se joue avant ». Tout se joue avant 6 ans, tout se joue avant 3 ans, tout se jouerait au cours de la première année de vie, voire pendant la grossesse. Ces formes de pensée impliquent forcément une approche de l'enfant, de la famille, dans leur environnement de vie, dans la société, qui modifie le regard qu'on va porter sur eux, et donc la façon dont on va les accueillir, les garder dans les modes d'accueil, mais aussi les soigner quand ils vont mal, les aider quand ils sont en difficulté, et les éduquer. C'est en cela que la question que nous posons dans ce livre, c'est quelle est l'ambivalence de ce rapport que notre pays aujourd'hui entretient avec l'enfance, avec ses enfants. En quelque sorte, on a essayé de travailler là-dessus, je crois.
Oui, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'il y a d'une part les compétences de Sylviane, avec évidemment toute son expérience professionnelle, avec des enfants en difficulté, et d'autre part, mon éclairage qui vient de la recherche fondamentale en neurobiologie. Et il y a un certain nombre de notions qui sont relativement récentes dans nos domaines, qui est cette notion qui est celle de la plasticité cérébrale. Donc la plasticité cérébrale auparavant c'était, disons, un concept, et maintenant c'est devenu une réalité tangible qu'on peut vraiment voir grâce, par exemple, à des techniques d'électrophysiologie ou des techniques d'imagerie cérébrale comme l'IRM. Et on s'est rendu compte vraiment depuis une dizaine d'années que la notion de plasticité cérébrale est vraiment une propriété intrinsèque du système nerveux, intrinsèque aux neurones, qu'il s'agisse de fonctions sensorielles, motrices, cognitives, et que c'est une propriété qui est là sollicitée en permanence dans le fonctionnement de notre cerveau, et non pas de façon occasionnelle, comme auparavant on avait tendance à le croire, en se disant il s'agit de mécanismes qui vont être réparateurs et qui vont compenser des déficits, des lésions. Donc, cette notion de plasticité cérébrale est tellement prégnante dans nos pratiques quotidiennes que toutes les théories qui fixistes, hein, qui prétendaient que tout était joué avant 3 ans, avant 6 ans, on est maintenant complètement au-delà de ces théories-là. Hein. Il y a vraiment eu un saut conceptuel, hein, c'est vraiment une révolution pour nous dans la conception du cerveau. Parce qu'on n'aurait pas imaginé que le cerveau soit à ce point plastique. Et bon, cette révolution conceptuelle est aussi, va de pair avec une révolution méthodologique, essentiellement avec l'imagerie cérébrale, qui permet désormais de voir le cerveau vivant en train de fonctionner et de voir, de suivre dans le temps comment le cerveau peut se modifier en fonction des apprentissages. Et ça, ça nous a apporté des réflexions et des connaissances qui font que maintenant, vraiment, on n'est plus dans les années 50, il faut penser le cerveau autrement.
Ce qui a motivé l'écriture de ce livre, c'est quand même de voir apparaître en France des méthodes qui s'implantent de ci, de là, à titre expérimental, comme expérience pilote, de dépistage et de prévention des difficultés psychiques des enfants qui sont très largement importées d'outre-Atlantique, et ces méthodes posent question. Mmh. Et nous avons aussi quand même un problème, c'est que les difficultés des jeunes enfants sont aujourd'hui appréhendées à partir d'outils pédopsychiatriques qui participent d'une logique, qui est une logique du trouble et non plus une logique du symptôme. Et du coup, on approche aujourd'hui les enfants en mouvement, en devenir, en transformation, car au fond, c'est ce qui caractérise l'enfance. C'est vrai qu'au cours de l'enfance, les enfants peuvent exprimer des façons d'être, des mal-êtres qui peuvent être passagers, temporaires, et que la tendance actuelle est à figer, diagnostiquer et poser des étiquettes psychopathologiques avec des outils qui sont discutables. Des outils inspirés d'une nosographie psychiatrique qui s'appelle le DSM-4. Et on voit aujourd'hui se répandre trois troubles qui passent très facilement dans le langage des instituteurs, des institutrices, des professionnels des crèches par exemple, qui sont l'hyperactivité, le trouble de l'attention, les oppositions, hein, le fameux TOP, trouble oppositionnel avec provocation, et puis on a bien sûr beaucoup parlé des troubles des conduites. Tout ceci se banaliserait et je crains qu'on ne soit plus en mesure d'accompagner les mouvements contradictoires que doivent nécessairement traverser des enfants pour grandir, tout en étant vigilants à ce que les difficultés apparaissantes puissent quelquefois nécessiter un accompagnement, une aide, voire une thérapie, quelquefois pas.
Oui, alors peut-être avant d'entrer dans le désespoir. Oui, alors peut-être avant d'entrer dans le des aspects plus précis du livre, est-ce que par rapport à l'histoire des idées, ce serait pas quand même intéressant de redire que il est dans la suite de la parution donc en 2005 de l'expertise collective INSERM sur le trouble des conduites, qui d'où est né le collectif Pas de zéro de conduite, avec cette idée que contre laquelle il semblait qu'il fallait lutter, qu'il y avait une espèce de trait qu'on pouvait directement tracer de conduites d'opposition chez le tout petit à la délinquance à l'adolescent. Alors on ne va pas reprendre toute la polémique qu'il y a eu autour de ça, mais moi je pense que votre livre est fait aussi en réaction à cette idée très 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 simpliste, hein, et scientifiquement fausse. Éthiquement dangereuse, politiquement risquée, enfin on ne va pas reprendre tout ça, mais peut-être, comment est-ce que vous comprenez qu'on puisse en ce moment, pourquoi est-ce qu'en ce moment on revient à des idées extrêmement simples, pour ne pas dire simplistes, alors elles ont forcément un certain écho parce que la complexité fait peur aussi, hein. Mais enfin bon, il y a une tendance quand même assez nette à revenir à une biologisation des médicaments, oui. Des comportements, à une biologisation des comportements, voire des troubles des apprentissages. Pourquoi est-ce que ça a tant de succès en ce moment, à votre avis? Parce qu'il y a des vagues dans tout ça. Il y a eu des périodes où, au contraire, la complexité faisait moins peur et on cherchait des modèles plus complexes, plus multi-déterminés. Et qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, il y a une réattraction vers des modèles simplistes, sous le couvert d'une pseudo-modernité?
Bon, je crois qu'on a des approches, on aura certainement des réponses légèrement différentes selon nos regards réciproques. Mais ce qui est pour moi très présent dans ma vie quotidienne, dans la recherche fondamentale, est qu'effectivement il existe un regain des idées déterministes en biologie.
Et linéaire.
C'est-à-dire une simplification. C'est-à-dire on continue à vouloir réduire la complexité de l'humain à quelques schémas simples, à quelques molécules ou à quelques circuits de neurones ou éventuellement à quelques gènes qui seraient responsables de nos actions et de nos comportements. Bon, à une époque dans l'évolution des connaissances en neurobiologie, on a pu émettre ce genre d'idées, mais il faut quand même bien voir que, par exemple, en ce qui concerne la génétique, on a eu la grande époque du tout génétique, hein, on avait le gène de la violence, le gène du bonheur, le gène de l'alcoolisme, le gène des maths. Voilà, enfin, on a tout eu. Et puis ensuite, il y a un petit peu eu un retour dans des considérations un peu moins impérialistes, si j'ose dire, pour la génétique, puisqu'on s'est rendu compte qu'avec la cartographie du génome humain, qu'on possédait à peine 30 000 gènes.
Comme la mouche.
Voilà, ce qui est à peine plus qu'un petit ver de terre d'un millimètre de long. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire cette simplification abusive, un gène égale un comportement. Bon. Alors, ensuite, bon, bien sûr, la quête des connaissances est toujours là, et en quelque sorte, les connaissances, l'enrichissement des connaissances sur le fonctionnement du cerveau, grâce en particulier à l'IRM, a remplacé un petit peu la génétique. C'est-à-dire que maintenant, on découvre la zone, enfin, la même chose qu'en génétique. On a la zone de la violence, la zone de la délinquance, la zone du bonheur, la zone du sentiment religieux, la zone de l'engagement politique.
Tu vas à droite ou à gauche?
On va répondre l'hémisphère.
Hémisphère.
Donc, on... Et ce serait sympathique si c'était une caricature un peu plaisante entre nous, mais c'est malheureusement une réalité qui... Parce que moi, je la vois tous les jours dans les publications scientifiques où il y a un certain nombre d'idées qui ressemble beaucoup à ce qu'on disait à l'époque, au 19e siècle, les idées défendues par les phrénologistes. Alors, le problème est le suivant, c'est que l'IRM, hein, c'est ces méthodes d'imagerie cérébrale, c'est à la fois le meilleur et le pire. C'est le meilleur quand ça montre la plasticité cérébrale, et c'est le pire quand on en revient à la phrénologie. Alors, comment est-ce qu'un public non averti, parce que c'est quand même pas facile à manier toutes ces notions-là, comment est-ce qu'il peut s'y retrouver,
hein?
Et le problème, c'est que les images du cerveau fascinent, hein? Vous voyez des images avec des couleurs jaune, bleu, vert. On vous dit ça, c'est la zone de la violence. Vous vous dites... Oh,
avec les méthodes d'image, on écrit magie. Hein?
Voilà. On a découvert la zone de la violence. Et la force de l'image est telle qu'elle est considérée comme étant une vérité et une preuve. Alors qu'avec le jeûne, c'était plus difficile, parce qu'on ne voit pas un jeûne. Hein. Mais alors là, la fascination pour les images du cerveau est en soi quelque chose de très important qui concourt à faire qu'il y a une sorte d'engouement pour cette imagerie.
Oui, mais après, je te laisse, Sylvain. J'ai un complément à ma première question. Je ne sais pas si c'est Catherine ou Sylvain qui répondra. D'accord, donc ça a toute cette fascination, cette séduction, cette force d'attraction. Mais on pourrait dire aussi que c'est extrêmement masochiste pour nous tous. C'est comme si la relation ne changeait rien. À quoi bon l'éducation? À quoi bon l'école? À quoi bon la société? À quoi bon le groupal? Pourquoi est-ce qu'on s'automutile comme ça dans nos modèles?
Moi, je voudrais répondre là-dessus. Parce que je crois qu'effectivement, la pensée déterministe, c'est une pensée causaliste, univoque, un problème à une cause et une réponse. Et en même temps, on sait très bien que ce sont des régressions qui apparaissent, notamment quand il y a un surcroît d'angoisse, d'anxiété. Et je crois qu'on est dans un contexte social et politique où il y a une transformation du rapport au futur pour les parents aujourd'hui. Les enfants aujourd'hui sont élevés dans quelque chose qui est un paradoxe total. Ils sont élevés par des adultes qui redoutent l'avenir. Que l'on prenne l'état de la planète, que l'on prenne l'état des dirigeants de l'économie internationale, etc., les raisons, peu importe les raisons, ce qui est clair, c'est que dans la clinique quotidienne, nous voyons des enfants élevés par des parents, éduqués par des enseignants, par des professionnels de la petite enfance, qui, au lieu de les élever, de les tourner vers le monde extérieur à la famille, vers la société et vers un avenir, vers un futur, les élèvent contre. C'est-à-dire qu'on les invite à grandir en les préparant, en les prémunissant. On veut qu'ils soient performants, on veut qu'ils soient doués, on veut qu'ils soient précoces, en avance, parce qu'on a peur de ce qui les attend et ça leur est transmis. C'est une première chose. Et je voudrais quand même dire aussi qu'il me semble, pour venir à ta question précédente de l'histoire des idées, il me semble que tout ceci se prépare quand même très doucement depuis 50-60 ans en France. Et que il y a quelque chose qui était formidable, c'est la découverte des incroyables capacités de l'incroyable Monsieur Bébé. Nous nous souvenons tous de cela. Nous souvenons tous quand même de cette fascination lorsqu'on a commencé à s'apercevoir que le nourrisson humain était un être d'emblée de langage, qu'il avait une préconscience des enjeux, de l'affiliation, de l'identité, de ceux qui les entouraient, qu'ils ne s'y trompaient pas, entre qui était leur mère, qui n'était pas leur mère, et j'en passe. Il y a un moment où on a parlé de l'intelligence du jeune enfant, et je crois qu'on a fait une bêtise quand on a accepté de parler de la compétence du nourrisson. Car ceci a été recouvert, repris, récupéré. Le mot était bon, je sais qu'on voulait démontrer ça. Mais ça a offert, je crois, la possibilité à ce que certains s'en emparent au profit de la stimulation précoce de l'enfant et qu'on s'en aille vers une autre fascination qui était la fascination cognitive. Et les enfants, les tout-petits aujourd'hui, sont l'objet d'une éducation précoce qui n'est pas une éducation au sens noble du terme, c'est-à-dire une invitation à entrer en contact avec les autres et le monde de façon confiante. Aujourd'hui, les enfants sont l'objet de stimulation pour leur faire apprendre de plus en plus tôt, de plus en plus de choses.
Ce que j'appelle transformer l'utérus en salle de classe.
Absolument. Absolument. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que de cela, du coup, on attend des performances des enfants et on a des attentes les concernant qui ne prennent plus en compte que quand bien même ils comprennent tout, ils n'en sont pas pour autant capables de faire tout bien comme on doit faire quand on a déjà, disons, l'âge de raison.
Il y a deux notions très insistantes tout au long du bouquin pour justement authentifier ce dont tu parles là, et je crois que tu as raison de pointer comme étant une lame de fond depuis 50-60 ans. C'est la façon dont la société, et probablement les parents, sont devenus phobiques de l'idée que notre meilleure force, c'est notre fragilité. Et que ce qui fait le devenir humain, sa richesse, sa poésie, ce qui fait le langage, c'est bien que justement, on est soumis à la néothénie au départ, et qu'on est très prématuré, et que grâce aux interactions qu'on va développer avec son environnement, eh bien, on va conquérir son humanité. Donc cette fragilité-là semble assez systématiquement déniée. Et puis, il y a le temps qui passe, le bon vieux temps qui passe. Et vous insistez très fréquemment sur le fait qu'il y aurait aussi une phobie, manifestement, dans la société néolibérale, des compétences, et puis chez les parents anxieux, à l'égard du temps que prend le processus psychique. Donc sans fragilité et sans temporalité, qu'est-ce qui reste ?
Les robots.
Ouais. Mais quand même, j'insiste un peu sur ma question. Pourquoi est-ce qu'on sacrifie notre responsabilité ? C'est comme si on préférait la météo qui annonce le mauvais temps que de ne pas savoir où on va.
Hein ? Parce que, et tu le sais sûrement au moins aussi bien que moi, se soutenir en tant que sujet, c'est pas drôle. Et c'est toi qui le dis souvent d'ailleurs, nous portons en nous quand même une haine de la pensée et de la complexité. Donc il faut composer avec ça. La tendance naturelle serait à être végétale. Et l'enfant sujet, ça sous-entend des adultes sujets confrontés à des angoisses fondamentales, fondatrices, existentielles, mais avec lesquelles il faut composer. Et je crois qu'on est, bercé aujourd'hui par l'illusion qu'on pourrait vivre sans angoisse. Et c'est un leurre fondamental.
On peut dire aussi que les questionnements font que maintenant, si un enfant ou un adulte d'ailleurs se comporte hors des normes, hein, encore faut-il définir ce que c'est qu'une norme, bien évidemment, mais s'il est hors des normes, ça veut dire qu'il a une maladie du cerveau, hein, ou ça veut dire qu'il a un problème biologique. Cette simplification à outrance de la description de la difficulté d'un individu qui, à un moment donné, peut avoir des comportements atypiques, elle est là au quotidien. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, toujours dans ma vie professionnelle de recherche, si aux États-Unis il y a beaucoup de recherches faites pour essayer de déterminer dans le cerveau quels sont les mécanismes et quelles sont les zones du cerveau qui régissent le bien, la notion de bien et de mal, les zones de la morale. Beaucoup de ces études sont faites en particulier par des personnes qui travaillent sur le FBI, au FBI, parce que l'idée qui est derrière, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans la tête d'un terroriste ou qu'est-ce qui ne va pas dans la tête d'un délinquant ou d'un criminel. Et c'est cette question-là qui est posée de façon répétitive, comme si on ne pouvait pas poser autrement la question, en faisant évidemment appel à d'autres facteurs sociologiques, culturels, psychologiques et autres, comme si le questionnement majeur, c'était qu'est-ce qui ne va pas dans son cerveau. Parce que si on trouve, entre guillemets, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cerveau, ça veut dire déjà qu'on est, rassuré parce qu'on a objectivé la chose, hein, on l'a simplifié. Et puis après, il va falloir trouver des médicaments pour que ça aille mieux. Alors trouvons des médicaments pour que ça aille mieux et faisons en sorte que, appelons un chat, que un certain nombre de firmes pharmaceutiques profitent de l'aubaine pour vendre des médicaments pour que ça aille mieux.
Il y a de belles pages sur le mensonge dans votre ouvrage, comme probablement un exercice de style parental tout à fait emblématique. Hein. Et vous pourriez en dire un mot, parce qu'on trouve autour du mensonge tout un tas de travaux qui convoquent les IRM, mais aussi toute une tradition psychanalytique et psychologique où on retrouve probablement des vertus cardinales que nous défendons. Alors,
vas-y.
Je trouve étonnant qu'on ait eu l'idée de considérer que le mensonge à 4 ans pour un enfant était un indicateur de trouble, lui-même, lequel trouble serait prédicteur d'une évolution vers la délinquance, dans une société où le mensonge est devenu une façon de gouverner, d'informer, de vendre.
Ça, c'est comme l'hyperactivité. La société crasse en miroir
ce qu'elle fait.
Hein?
Et c'est quand même pas parce que les gens constatent que leurs décideurs, leurs patrons, leur journal, leurs conjoints leur ment en permanence qu'on doit pour autant se mettre à traquer le moindre mensonge émanant d'un jeune enfant. Alors, par ailleurs, quand même, le mensonge est pour nous, psychanalyste, l'un des indicateurs pour les jeunes enfants d'une évolution positive, puisque lorsqu'ils mentent, ils sont en train de démontrer, premièrement, qu'ils en sont capables, qu'un tas de processus se sont mis en place entre l'imaginaire, la réalité, le symbolique, et puis surtout, ils vérifient auprès des adultes qui les entourent qu'ils ne sont pas transparents, qu'ils ne sont pas pénétrables psychiquement, c'est toute la question des enveloppes psychiques qui est posée là, et c'est toute la question quand même d'accepter, quand on est un adulte, de se rendre compte qu'un enfant ment, de bien sûr il faut les élever en leur apprenant qu'il vaut mieux dire la vérité, mais de temps en temps il y a une sorte d'éthique parentale et éducative à faire en sorte de laisser l'enfant sentir qu'on sait que ça n'est pas tout à fait vrai, mais que pour autant, il y a un espace possible de jeu, de négociation avec la réalité, car c'est dans cet espace, c'est dans cet entre-deux, non dupe, que va se construire la possibilité pour l'enfant d'établir aussi pour lui la différence entre ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il peut dire et ne pas dire, ce qu'il peut faire et ne pas faire. Et souvent, c'est parce qu'on a pu penser quelque chose qu'on aura su ne pas le faire parce qu'on sait qu'on ne doit pas le faire.
Ça, c'est très important, ça.
C'est très important.
Surtout la différenciation entre l'espace de l'enfant et l'espace de l'autre aussi.
Absolument. Et il y a aujourd'hui les tenants comme ça de ces théories de prévention très comportementale et de contention très précoce pour les enfants. Les gens qui croient à ça sont des gens qui s'imaginent qu'il faut dresser très précocement les enfants, le plus précocement possible, à ne pas se conduire comme ceci ou à se conduire comme cela. Or, justement, plus on le fait tôt, plus on empêche l'enfant de mettre en place ces processus qui vont permettre que l'agir transite par la pensée. Or, c'est bien parce qu'on pense que quelquefois on n'agit pas ou qu'on agit mieux.
En tant que neurobiologiste, est-ce que vous nous confirmez bien que par rapport aux autres animaux non humains, le bébé humain termine l'organisation de son cerveau après la naissance et que de ce fait, il y a un impact de l'environnement et de l'autre et la place de l'autre, elle est en quelque sorte inscrite intrinsèquement dans son organisation cérébrale, ce qui donne d'ailleurs une place particulière à l'autre et peut-être des devoirs dans l'intersubjectivité.
Oui, toutes les recherches sur le développement du cerveau convergent pour montrer que notre cerveau, donc à la naissance, le bébé humain naît avec un stock de neurones d'environ 100 milliards, ce qui est un chiffre considérable. Mais comme chacun sait, ce cerveau est loin d'être terminé, puisque seulement 10% des connexions entre les neurones sont présentes. Et les 90% vont se construire progressivement, ultérieurement, en fonction des interactions de l'enfant avec son milieu familial, social, éducatif. C'est cette interaction qui va permettre la construction du cerveau. Et comme chacun de nous a une histoire qui lui est propre, le résultat, c'est que nous avons tous des cerveaux différents. C'est-à-dire que si vous prenez des cerveaux non pas conservés dans le formol, il suffit simplement de regarder maintenant des personnes en IRM, puisqu'on peut voir les cerveaux vivants, vous regardez l'anatomie des cerveaux, nous tous et nous toutes ici présents, avons des cerveaux différents macroscopiquement, c'est-à-dire qu'on a tous des formes de circonvolution qui sont différentes, on a des volumes de cerveau qui sont différents, parce que nous avons vécu une histoire différente. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante qui illustre simplement ces capacités du cerveau à se construire en fonction des expériences vécues. Et alors, pour en revenir à l'enfance, on peut imaginer des situations où un enfant traverse des grosses difficultés dans la petite enfance avec peut-être des retards scolaires et des difficultés psychologiques. Mais en aucun cas, cela veut dire que, une fois que c'est arrivé, après, c'est indélébile. En aucun cas. La plasticité du cerveau est telle, et les psychologues le savent bien, que rien n'est jamais définitif, qu'il peut toujours y avoir des réajustements, que le champ des possibles est là, omniprésent, et qu'un enfant n'est pas condamné à avoir un type de devenir parce qu'à un moment, il a subi des grosses difficultés dans sa vie. Pour nous, en tant qu'adultes, on le sait également. C'est-à-dire que rien n'est jamais figé dans le cerveau. Rien n'est jamais déterminé. Il n'y a pas de circuits de neurones qui sont là, câblés à tout jamais et qui ne sont pas susceptibles de pouvoir évoluer.
Donc l'avenir de la génétique, c'est l'épigénétique.
Oui, bon, l'épigénétique, c'est une notion qui est plutôt développée dans une approche, disons, de biologie moléculaire et de biologie cellulaire. C'est-à-dire que sur des systèmes simples, tels qu'on peut les appréhender dans les laboratoires, on s'aperçoit que l'expression des gènes, par exemple dans des cellules, dans des bactéries ou dans des cellules en culture, est complètement modulée par l'environnement de la cellule. Donc c'est en ce sens que les biologistes parlent d'épigénétique. quand on s'adresse à un niveau d'organisation supérieur, plus complexe, il est, à mon sens, préférable de parler de plasticité qui reflète davantage cette malléabilité du cerveau à évoluer en fonction des expériences. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, justement, avec l'IRM, on peut objectivement voir un certain nombre de modifications dans le cerveau. Bon, si vous prenez, par exemple, vous étudiez les cerveaux de musiciens professionnels, par exemple des pianistes ou des violonistes, on s'aperçoit que les régions du cerveau qui contrôlent la coordination des mains, ainsi que la vision et l'audition, sont un petit peu plus épaisses que chez des personnes qui ne sont pas musiciens professionnels. Et chose qui est très intéressante, c'est que ce phénomène d'épaississement est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance.
Hein. Donc apprendre le piano en 8 jours, comme le disent certaines réclames, c'est un peu compliqué quand même. Hein.
Non, on peut même avoir de la plasticité en 8 jours. Oui. Ça, j'ai plein d'autres expériences dont je peux vous parler.
Non, ça ne s'épaissit pas autant.
Oui, mais néanmoins, en 8 jours, on peut déjà noter des variations d'épaisseur.
Donc, l'ennui aussi, c'est qu'il ne faudrait pas pour autant croire que parce qu'on fait apprendre le piano aux enfants, on va leur épaissir.
Non, mais il y a l'éloge d'une certaine, du processus quand même.
Voilà. Absolument, voilà. Ça c'est important, mais il ne faudrait pas qu'on inverse les apports de Catherine au profit de Stavkanovisme, du développement.
Ça va dans tous les sens.
Vous avez trouvé un très très joli titre. Hein. Moi j'aime beaucoup Nos enfants sous haute surveillance. Alors toi tu as un peu tout à l'heure accroché ça à la peur du futur, l'avenir, la crise. Etc. Moi je me demandais aussi si les adultes, si nous n'avons pas peur de l'enfant qu'on craint d'avoir été surtout. Et qu'on est tellement. Alors, l'enfant qu'on a été, il est insaisissable. L'enfant qu'on espère avoir été, il n'est pas très pesant. Mais celui qui nous gêne vraiment, c'est l'enfant qu'on craint d'avoir été. Et ça, je me demande si c'est ce qui nous empêche tout le temps de relâcher le pouvoir sur l'enfant, c'est de projeter sur lui, peut-être, l'image de l'enfant qu'on a peur nous-mêmes d'avoir été.
Et c'est une peur qui est liée à ce qu'on a peur d'avoir fait à nos parents.
C'est ça. Été ou fait, bien sûr.
Oui. Il y a peut-être aussi, dans l'esprit de votre bouquin, et de ce qu'on trouve à bien des reprises, une peur, alors on va dire, de nos enfants, mais peut-être aussi, à l'instar de ce que dit Bernard, de nous-mêmes autrefois, il y a une peur de la créativité. Et c'est vrai que on peut aussi revisiter son enfance à l'aune d'une arborisation qu'on peut imaginer neuronale, mais aussi symboliquement culturelle, une arborisation extrêmement riche et des actes de sculpture, de chirurgie, de castration qui n'ont peut-être pas toujours été très heureux. Enfin, en tout cas, qui sont peut-être aussi le fruit de maltraitance environnementale ou d'une maltraitance masochiste à l'égard de soi-même. Mais en tout cas, quelque chose qui mettrait en avant une créativité matricielle qui est assez redoutable pour un adulte qui, lui, a déjà bien cheminé sur le chemin et qui est loin de cette donne initiale qui est extrêmement large.
Une envie de tous les possibles d'avant.
C'est ça, quelque chose qui est effectivement contrasté par rapport à la façon dont les cartes sont distribuées au départ. À plusieurs reprises, il est question de la peur de la créativité de l'enfant, quand même, dans ces pages. C'est dit comme ça.
Je crois que il y a une difficulté pour des adultes qui sont persuadés qu'ils peuvent avoir le contrôle via la technologie, via tas d'outils, le contrôle de ce qui leur arrive. Une difficulté à appréhender des enfants dont, d'une certaine manière, on ne sait rien de ce qu'ils ont dans la tête, comment ils fonctionnent, comment ils se représentent le monde, notamment les tout-petits, et on ne sait rien de ce qu'ils vont devenir. Donc c'est quand même un enfant, ça réactive la peur de l'inconnu, et c'est une peur qui n'est pas très compatible avec la vie moderne, hein, qui repose sur l'illusion de la maîtrise quand même, fortement. Les enfants sont porteurs du continent noir, de l'avant de la mémoire dont on se souvient. Et ils sont porteurs aussi de l'autre continent noir qui est au bout de la vie, qu'y a-t-il, qu'y aura-t-il derrière ce que l'on sait. C'est quelque chose qui devrait nous convoquer au plaisir d'être en leur compagnie. Car quand on se tient au plus près des enfants, ils sont ralentisseurs, les enfants. Ils sont ralentissants parce qu'ils ne marchent pas comme les grands. Quand on parle avec des enfants tout petits, ils ne répondent pas comme on peut s'attendre à ce qu'ils répondent. Et ce qu'ils portent en eux a quelque chose de surprenant et d'inattendu. Et qu'est-ce qu'on fait de l'inattendu ? On l'accueille avec plaisir ou on le craint, on le redoute ? Et il y a une autre dimension, c'est que pour grandir, un enfant doit impacter sur le monde qui l'entoure. Pour marcher, un enfant doit conquérir la verticalité, mais ce faisant, il va s'agripper à tout ce qui l'entoure. Il va s'agripper, mais ce faisant, il va aussi griffer, érafler, casser, détruire, bousculer. Le devenir grand d'un enfant nécessite que se mettent en œuvre des éléments de conquête qui peuvent sembler de l'agressivité. Ça n'en est pas forcément. Mais si on les lit comme de l'agressivité, alors on va avoir envie d'exercer une pression, une contention. Mais cette conquête du grandir des enfants, elle nous surprend aussi parce qu'on ne veut plus agresser. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi.
Quand on lit le livre, je trouve qu'à la fois, il y a quelque chose de très vital, enfin vitalisant, d'espoir, d'optimisme. On se dit, mais je veux dire, si l'enfant, il a toute cette plasticité, enfin bon, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de... on en ressent un peu pessimiste, parce qu'on ne voit pas très bien qu'est-ce qui va arrêter les politiques de croire à des modèles simplistes. C'est ce qui vous fait très peur, c'est pour ça que vous l'avez écrit. Mais on ne voit pas, c'est pas la raison qui va les arrêter, là.
Moi, je crois beaucoup que ce qui peut arrêter les politiques, c'est que les acteurs de première ligne auprès des enfants soient intelligents de ce qu'ils font.
Moi, je pense que l'angoisse de l'inconnu est tellement forte que prédire qu'un enfant va devenir délinquant, c'est plus rassurant que de dire on ne sait pas ce qu'il va devenir.
Sauf si les personnes qui s'occupent de l'enfant sont tenues par un intérêt dans leur pratique et dans leur travail. Ce livre est plein d'informations, car je crois que plus les gens savent comment sont construites les méthodes qu'on leur demande d'appliquer, d'où elles viennent, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les soubassements théoriques, idéologiques, plus on ouvre la pensée, la réflexion des adultes auprès des enfants, plus ils pourront affronter ce à quoi ils sont renvoyés dans la confrontation à l'enfant.
Tu ne crois pas que dire les choses comme ça...
Comme je les ai dit, et d'y
par toi, on reste très optimiste. Non, mais parce que c'est très stimulant, parce qu'on te connaît. Est-ce que tu ne crois pas que ça serait comme une sorte de fatalisme à l'égard d'une souffrance et d'une pathologie, hein? Et c'est vrai que au quotidien, on est si souvent face à des humains qui viennent nous raconter qu'ils souffrent et que finalement, leur souffrance est en béton armé. Et nous, quand on commence à leur dire que c'est de la pâte à modeler, ils haussent les épaules en disant pas du tout. Mais en fait, ils sont venus pour ça. Ils sont venus pour nous entendre dire que non, on est des ennemis personnels du fatalisme. Alors, moi j'ai l'impression que la prédiction aujourd'hui, c'est vraiment une maladie, une souffrance de l'anticipation. C'est-à-dire ne pas supporter l'infini du bouquet des possibles, le réduire de façon rigide à une prédiction linéaire, simpliste et pseudo-scientifique, c'est vraiment un acte, une parole de souffrance. Donc moi, pourquoi est-ce que je reste optimiste? Pourquoi est-ce que je suis enthousiaste avec ce que font Catherine et Sylviane? C'est que j'ai l'espoir que ça vienne quand même résonner avec notre plaisir à associer librement. Parce que nous, les psychanalystes, on sait bien que quand il y a quelqu'un qui est obsessionnel et qui est là comme ça sur des objectifs unicistes, bah, il exprime sa souffrance. Mais que chemin faisant, il va peut-être pouvoir retrouver une liberté associative.
Mais la prédiction, la prédiction qu'un enfant va devenir délinquant, bon, on a vu ce que ça donnait. Mais on n'a jamais de prédiction analogue du côté positif.
Ah si, il y en a énormément.
Il y en a.
Il y en a énormément. Les professionnels de l'enfance.
Tu feras les grandes écoles.
Il y en a. Oui. Celui-là, c'est un matheux. Celui-là, ce sera un boxeur. Ou ce sera.
Un champion.
Non, mais je ne suis pas pessimiste. Je pense que les idées justes finissent toujours par prévaloir. Le problème, c'est qu'elles coûtent très cher. Et dans une partie de ma vie, donc je me consacre au mouvement Piclair-Loxy, que tu connais bien aussi, Sylviane. On voit aussi tout le coût. Il y a un coût à la qualité des soins.
Il y a un coût à la qualité des soins, mais il y a un coût aux non-soins.
Ah oui, on le paye plus tard.
Voilà. C'est pour ça que j'introduisais tout à l'heure sur le problème de la temporalité, du rapport au temps que nous avons aujourd'hui. On est quand même dans une immédiateté structurelle, est fait à court terme, tout de suite. On veut des résultats tout de suite, on veut des évaluations en chiffres, en tableaux, en couleurs.
Pas forcément tout de suite, mais avant les prochaines élections.
Oui, absolument.
Non, bah, je crois qu'il y a aussi quand même raisonnablement de quoi s'inquiéter.
Oui.
Parce que déjà, vouloir prédire, déjà, c'est s'opposer à la notion de plasticité du cerveau. Parce qu'on considère que, avec l'IRM par exemple, l'IRM en fait ne donne très peu d'informations sur le fonctionnement du cerveau. L'IRM permet d'avoir une image, une photo instantanée du cerveau d'un individu à un moment de son existence. Mais elle ne permet en aucun cas d'avoir une idée de l'histoire de cette personne et non plus d'avoir une idée de ce que cette personne fera plus tard. Bon, néanmoins, les idées de certains de nos dirigeants seraient qu'il serait peut-être convenable d'utiliser l'IRM, par exemple, chez des délinquants sexuels, pour savoir si ces personnes sont susceptibles de récidiver. Ou bien si un enfant un petit peu turbulent a vraiment quelque chose qui risque de faire que dans son cerveau, il puisse évoluer de façon non satisfaisante vers la délinquance. C'est-à-dire que la réalité de cet outil... qui n'est pas encore appliqué de façon systématique chez nous, heureusement, mais qui commence à l'être en Amérique du Nord et au Canada, il y a un réel danger. Il y a un réel danger. Et c'est pour ça que ce qui est très important, c'est qu'il y ait sur toutes les différentes disciplines, travaillent ensemble et s'engagent ensemble pour faire part à un grand public de l'état de nos réflexions. Hein. Il faut vraiment arrêter les clivages entre les biologistes, les psychanalystes, les psychologues, les sociologues.
C'est ce que vous incarnez dans le livre.
Il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Et ça, c'est ça qui va faire qu'on se sent plus fort, tous ensemble. Hein. C'est aussi un peu l'esprit de l'appel des appels, pour vraiment faire en sorte que... Des disciplines qui se parlaient peu se parlent davantage. Parce que là, il y a quelque chose d'important qui est en train de se faire. Hein. Réagissons avec des modes qui créent du lien, qui créent un discours qu'on va tous ensemble contribuer à faire émerger.
Les deux messages optimistes de votre livre, c'est la plasticité neuronale et le rôle de l'autre.
Bien sûr, vous vous rendez bien compte que dans ces pensées déterministes, la stratégie, elle vise à quoi? Elle vise à déresponsabiliser. À déresponsabiliser les parents, la société, le tissu associatif, institutionnel, et à partir du moment où les enfants ils seraient porteurs en germe en eux dès la naissance ou même avant de ce qu'ils vont devenir plus tard, c'est comme si les enfants étaient élevés dans un bocal. Hein. Mais la réalité de vie montre l'inverse.
Le fait que vous ayez eu d'ailleurs une très belle préface d'Axel Kahn, qui est quand même un généticien de haut niveau, est un bon signe, je pense, non ?
Mais bien sûr.
Ah oui. Et puis, on est très très, très oui. heureuse qu'il ait accepté de nous faire cette préface.
Est-ce que vous pourriez nous dire, parce que je suis très sensible à ça, c'est la version triviale de comment on fabrique l'interdisciplinarité, comment vous vous êtes dépatouillé pour co-écrire ce livre? C'était comment la technique?
T'es trop curieux.
Ben oui.
Ben peut-être qu'on peut dire que nous nous connaissions, Catherine Vidal et moi, depuis plusieurs années sur d'autres batailles, puisque nous nous étions commises l'une et l'autre dans d'autres ouvrages sur la question, pour moi, les mères qui travaillent sont-elles coupables? Donc la question des femmes reliées à l'enfant, et Catherine sur cerveau, sexe et pouvoir. Donc nous étions entrecroisées déjà sur quelques batailles, et nous avons en commun l'idée qu'on a envie ni l'une ni l'autre de voir nos disciplines récupérer à des fins de simplification et de nourrissage des stéréotypes et des idées reçues. Donc peut-être tu peux dire un peu pour l'écriture.
Oui, moi ce qui m'a beaucoup frappé depuis qu'on est ensemble à parler de notre livre, on a plutôt été convoqué devant des auditoires de pédopsychiatres, de spécialistes de la petite enfance, de psychanalystes.
Travailleurs sociaux.
Voilà. Et moi, personnellement, un peu peut-être naïvement, je pensais que, disons, ce que je pouvais apporter en tant que neurobiologiste n'était pas forcément très important, parce que de toute façon, tous les spécialistes de la petite enfance savent qu'un enfant, ça a un cerveau qui s'adapte. Enfin, tous, vous connaissez la plasticité cérébrale parce que vous la voyez tous les jours à l'œuvre avec les petits patients.
On connaît la plasticité psychique.
Voilà, mais bon, et je n'avais pas pris la mesure du fait qu'il était important aussi qu'il y ait des sciences dures, entre guillemets, qui soient là pour appuyer justement tout le champ de vos connaissances.
Qui ne sont pas molles, qui ne sont pas molles.
Oui, qui ne sont pas molles, justement, j'ai pas prononcé le mot.
Vous voyez, comme quoi c'est bien de travailler ensemble.
Et ça fait très plaisir de voir à quel point on est vraiment en symbiose. Hein. Moi, je trouve que notre travail, c'est de la symbiose.
Et alors, pour l'écriture, techniquement?
On a fait un plan. Ouais. On a fait un plan toutes les deux.
Oui,
on a...
oui.
Et puis, Catherine a bien repéré les parties sur lesquelles elle pouvait intervenir. Et elle a démarré tout de suite et avec beaucoup d'efficacité sur ces parties. Et puis, j'ai démarré sur les miennes et l'ensemble de tout cela. Et j'ai été beaucoup plus lente qu'elle. Parce que je me suis confrontée à quelques difficultés qui sont des difficultés liées au sujet lui-même. Car il est difficile d'écrire sur le refus des pensées déterministes, car il s'agit bien sûr de conjurer quelque chose du fatum, de la fatalité. Et vouloir conjurer la fatalité, quand on est psychanalyste, c'est à la fois la clinique quotidienne, mais c'est aussi un peu un tabou. Et ce travail d'écriture a nécessité que j'en passe par tout un réexamen des raisons personnelles pour lesquelles je m'étais lancée dans ce livre. Et je suis ravie d'avoir procédé à cette nouvelle étape de la compréhension de mes propres fatalités conjurées.
Ce qui est une preuve de plasticité.
Oui, on en revient toujours là.
Bon. Alors, c'est vrai que ça, probablement, ça permet quelques pépites comme Vincent 12 mois, où vous racontez quelque chose qui concerne cet enfant qui fait semblant de cueillir des fleurs et qui les amène sur les genoux de sa mère. Et là, au milieu d'un propos extrêmement rationnel, raisonnable et construit, il y a un îlot de poésie absolument incroyable. Et il y en a plusieurs comme ça. Et je pense que probablement, ça, c'est le fruit d'une synergie bien féconde. Hein.